20h, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons de notre quête pour chercher de nouvelles formes de vie extraterrestres dans l'atome de savoir. Bonsoir et bienvenue à tous sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
Ce soir, nous partons dans l'espace pour parler de vie extraterrestre sur Radio Campus Paris. Nous allons partir plus loin que la simple zone 51, tout en gardant les pieds sur Terre dans nos studios. Pour répondre à nos questions ce soir, nous avons invité André Braque. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes astrobiologiste et directeur de recherche émérite au Centre Biophysique Moléculaire du CNRS. Françoise Combes est aussi avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes astrophysicienne, professeure au Collège de France et médaille d'or du CNRS 2020. Pour faire une pause dans notre discussion en milieu d'émission, vous pourrez écouter la belle voix de Vadim pour l'actu scientifique. Et en fin d'émission, Jade nous parlera de l'infiniment petit, ce qui n'est pas sans lien avec le sujet du jour. Mais d'abord, nous allons faire le point avec les connaissances théoriques et scientifiques actuelles à ce sujet. Bonsoir Gaspard.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous diriez à un extraterrestre si un jour vous en croisez un ?
Assez compliqué quand même comme réponse, je veux dire, peut-être bonjour ou...
Bonjour, c'est pas mal.
Oui.
Voici quelques messages destinés aux extraterrestres.
Hola y saludos a todos.
Hello from the children of planet Earth.
Bonjour tout le monde.
D'écouter un mix de quelques sons présents sur le Voyager Golden Record, un disque placé à bord des sondes Voyager 1 et 2 qui comporte des images et plus de 5 heures de sons avec des salutations dans 55 langues différentes, des bruits terriens et de la musique des quatre coins du monde comme El Cascabel de Lorenzo Barcellata. Les sondes ont été lancées par la NASA en 1977 et se trouvent aujourd'hui à une vingtaine de milliards de kilomètres de chez nous. Ce qui fait de ces sondes les objets construits par l'homme les plus éloignés. Elles sont la preuve de notre existence pour d'hypothétiques êtres extraterrestres. Oui, je dis hypothétiques parce qu'à ce jour, on n'a aucune preuve de leur existence. D'ailleurs, on pourrait bien ne jamais en avoir. C'est en tout cas ce que suggère le paradoxe de Fermi, un physicien italien du XXe siècle. On pourrait le résumer ainsi. Quand on voit à quelle vitesse nous nous développons, il est très probable qu'on réussisse à mettre au point une technologie permettant de voyager à des années-lumière d'ici au cours des prochains millénaires. Alors, en partant du principe qu'il existe des civilisations comparables à la nôtre et au vu de l'âge de l'univers, environ 13,8 milliards d'années, on n'est certainement pas la plus ancienne civilisation. Mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-on jamais rencontré d'extraterrestres ? Alors, est-ce qu'on est seul ? Est-ce que la vie intelligente est extrêmement rare ? Ou alors peut-être que les extraterrestres existent et qu'ils se sont manifestés à une époque où nous n'avions pas la technologie adéquate pour capter leurs messages. Peut-être même qu'ils sont venus, mais qu'on ne s'en souvient pas, de mémoire d'hominidés. Finalement, l'homme de Néandertal, c'était il n'y a que 50 000 ans. Mystère. Parmi les très nombreuses réponses proposées au paradoxe de Fermi, celle du chercheur américain Robin Hanson est, entre guillemets, acceptée par une grande partie des scientifiques. On l'appelle « the great filter » ou « le grand filtre » en français. Il s'agit d'un obstacle que toute civilisation intelligente finirait par rencontrer et qui l'empêcherait de s'étendre dans la galaxie. Le grand filtre peut être derrière nous, ça pourrait être l'astéroïde qui s'est écrasé sur Terre il y a 65 millions d'années, menant à la disparition des dinosaures. Nos lointains ancêtres ont survécu à une telle catastrophe et c'était pas gagné. Mais le grand filtre est peut-être aussi devant nous. Ça pourrait être l'assèchement total des ressources de la planète par la civilisation qui l'habite, menant à sa perte. Oh oh, ça me rappelle un truc ça. Bon bref, revenons à nos moutons, enfin à nos extraterrestres. Admettons qu'ils existent. Alors, combien de civilisations comparables à la nôtre pourrait-on rencontrer dans la galaxie ? L'astronome américain Frank Drake a tenté de répondre à cette question en 1961 en posant une équation qui depuis porte son nom. Accrochez-vous. Pour la résoudre, il faudrait connaître le nombre d'étoiles en formation par an, puis la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes, la fraction de ces planètes qui seraient habitables, la fraction de ces dernières qui seraient habitées, la fraction de ces dernières qui abritent une civilisation intelligente, la fraction de ces civilisations qui ont l'envie et les moyens de communiquer, et la durée moyenne d'existence d'une telle civilisation. Difficile d'avoir la plupart de ces données, mais on est au moins fixé sur les conditions nécessaires pour pouvoir entrer en contact avec d'hypothétiques extraterrestres. Et peut-être que quelque part, très loin d'ici, d'autres se posent les mêmes questions que nous. Parce que oui, nous sommes peut-être les extraterrestres d'une autre civilisation. Alors comment se comporte-t-on, nous ? Eh bien, on a émis très peu de messages vers l'infini. Mais on écoute en permanence l'espace, au moins depuis 1984, l'année où la NASA a monté le programme de recherche d'intelligence extraterrestre, communément appelé SETI. Ce n'est pas le premier programme d'écoute de l'espace, mais c'est le plus connu car il est toujours d'actualité. Nous sommes donc discrets dans l'univers, on ne sait jamais. Vu ce qu'il se passe à chaque fois qu'une civilisation en découvre une autre, il vaut mieux rester prudent. Mais nous laisserons tout de même des traces, notamment grâce aux sondes Voyager et le disque qu'elles transportent. Et si un jour, une sonde est interceptée par d'hypothétiques extraterrestres intelligents, ils pourront dire que sur Terre, en 1977, il y avait une sacrée ambiance.
Merci beaucoup Gaspard, et tout de suite nous allons commencer notre débat qui va parler dans un premier temps des missions spatiales actuelles. André Brac, y a-t-il des missions qui ont uniquement l'objectif de détecter la vie sur Terre ?
Absolument, et notre objectif principal c'est bien sûr la planète Mars, et cette année 2020 est une année exceptionnelle puisque nous aurons trois missions qui sont en partance et qui sont en route maintenant vers Mars. Il y a la mission américaine Mars 2020 avec le robot Persévérance qui va se poser, rechercher des traces de vie fossilisée. Il y a une mission chinoise qui est partie également, qui va aussi poser un petit robot à la surface de Mars. Et il y a la mission lancée par les Émirats et qui consiste en un orbiteur qui va analyser l'atmosphère de Mars avec la possibilité d'analyser finement le méthane, puisqu'il y aurait, paraît-il, un peu de méthane, et dont l'origine pourrait être, avec un gros conditionnel, d'origine biologique, puisque sur Terre, nous avons des bactéries qui sont profondément enfouies dans les sédiments au fond des mers et qui produisent du méthane biologique, donc du méthane qui est un petit peu enrichi en carbone 12, qui est une bonne signature d'une activité biologique. Voilà. Donc Mars est vraiment l'objet d'une mission dédiée à la recherche de vie martienne.
Et est-ce que détecter la vie est un objectif pour chaque mission, Madame Combe ?
Non, en fait, il y a beaucoup d'autres missions. Donc, des missions qui permettent de regarder les galaxies, par exemple, et tous les mystères de matière noire et d'énergie noire. Comme par exemple, nous avons un satellite qui va être lancé en 2022, Euclide, qui est là pour justement résoudre tous les problèmes de l'univers, mais autres que ceux de la vie dans l'univers. Par contre, il y avait, et ça a été un petit peu abandonné, mais ça va peut-être revenir, une mission qui s'appelait Darwin, et qui voulait lancer une série de petits satellites qui auraient permis de cartographier. Alors vous savez qu'on a détecté beaucoup de planètes extrasolaires, donc on aurait visé une de ces planètes extrasolaires et essayé de détecter, de faire l'image de ces planètes. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, de savoir s'il y a des océans, s'il y a de la végétation. À ce moment-là, il y aurait de la vie, au moins de la vie d'un certain niveau, d'un bas niveau. Et donc, cette mission Darwin était peut-être un peu trop ambitieuse. Donc, l'ESA ne l'a pas retenue, mais peut-être dans les années futures, on en aura une comme ça qui sera vraiment dédiée à regarder la vie en dehors du système solaire.
D'accord. Mais donc, du coup, pour le moment, il y a des missions spatiales qui n'ont vraiment pas du tout cet objectif premier. On pense notamment, par exemple, à des missions pour les télécommunications, ce genre de choses,
oui,
qui sont plus industrielles, finalement.
Oui, tout à fait. Appliquées à la vie sur Terre, en fait. Oui,
d'accord.
Tout à fait. Mais sinon, au point de vue astrophysique, pour notre connaissance de l'univers, il y en a énormément qui ne sont pas, en fait, de la vie. Par contre, je rajouterais qu'il y a une mission qui va être bientôt lancée, en 2022 aussi, qui s'appelle JUICE, pour aller voir les satellites de Jupiter. Donc, il y a, en effet, vous savez qu'il y a autour de Saturne, il y a peut-être une planète qui s'appelle Encelade, qui est recouverte de glace, et on a vu des geysers qui sortaient. Donc on pense qu'il pourrait y avoir de la vie dans l'eau sous la glace, de même que le satellite Europe autour de Jupiter. Et c'est JUICE qui sera lancé, pourra regarder autour d'Europe, et aussi Ganymède, Callisto. Et Ganymède, c'est aussi une grosse planète où on pourra mettre mis en orbite autour de cette planète.
Et Madame Combes, quelle est l'importance de la problématique de recherche de vie extraterrestre dans les missions actuelles pour celles qui ont cette problématique?
Alors pour celles qui ont cette problématique, ben c'est la principale, le principal but. Donc ce qu'on cherche, c'est pour savoir par exemple pour les planètes extrasolaires, quels sont les signes, les biosignatures. Les biosignatures seraient l'existence d'oxygène, O2. L'oxygène peut-être de O+, dans l'atmosphère ionisée, et puis aussi le méthane, comme l'a dit André Braque tout à l'heure. Et puis, on aimerait faire l'image, quoi, en fait. Parce que finalement, oxygène, méthane, ça ne suffit pas. Puisqu'on a, par exemple, sur Titan, le satellite, on a des océans de méthane. Donc, ça ne suffit pas, on sait qu'il n'y a pas de vie. Donc, on aimerait avoir des biosignatures.
Monsieur Braque, vous souhaitez ajouter quelque chose?
Oui, de toute façon... On s'inspire de ce que l'on croit savoir de l'origine de la vie sur Terre, donc à savoir la recherche d'eau à l'état liquide et la chimie du carbone. Et on recherche tous les lieux dans le système solaire et dans l'univers où on pourrait trouver, où se trouve donc ce couple magique, l'eau à l'état liquide et la chimie du carbone.
Il y a aussi...
Excusez-moi, solaire, on a bien sûr, on a Mars dans sa jeunesse. Et on a Europe, comme mentionné déjà par Françoise Combes, où il y a, sous la carapace des glaces, un océan d'eau salée. Et pour l'instant, on a l'eau, mais on n'a pas encore la chimie du carbone. On n'est pas difficile, il nous faut deux choses, l'eau et la chimie du carbone. Sur Titan, on a la chimie du carbone, on n'a pas l'eau. Sur Europe, on a l'eau, mais pas la chimie du carbone. Donc, patience.
On entend aussi beaucoup parler des missions sur Mars, mais en fait, ces missions, on va dire, sont plus... pas industriel, mais plus politique, finalement, que des missions qui ont pour but réellement de rechercher la vie sur Mars.
C'est sûr que, en fait, les divers pays prennent un petit peu comme un résultat de prestige d'avoir été capable d'envoyer des robots, même, ou des missions sur Mars. Donc, entre la Chine, les États-Unis, la Russie, il y a eu toujours cette compétition. Donc, il y a en effet cet effet politique. Enfin, quand même, au point de vue scientifique, c'est peut-être aussi la recherche de ce qui pourrait exister comme vie, ou bien un reste de vie qui a été dans le passé.
Merci Françoise Combes. Est-ce que, Monsieur Braque, vous voulez rajouter quelque chose sur le fait qu'effectivement, peut-être aujourd'hui, les missions spatiales peuvent se détourner, on va dire, d'un but scientifique pour des objectifs un peu plus politiques? On pense notamment à revenir sur la Lune avec les États-Unis qui pensent faire ça.
Non, mais c'est difficile de faire la part des choses. Je pense que pour Mars, c'est quand même... il faut réussir à décider les agences. Donc, par exemple, en Europe, on a la chance d'avoir l'Agence spatiale européenne, qui est une fédération de nombreux pays, et pour lequel il y a des conseils et des décisions à prendre qui ne sont pas forcément tendues par des enjeux politiques. Je crois que là, en Europe, on a la chance d'avoir, enfin, à mon avis, je pense que j'ai participé à des conseils au niveau de l'Agence spatiale européenne, et c'était l'objectif scientifique qui primait et qui avait la priorité sur des... Mais par contre, je pense qu'effectivement, pour les Émirats arabes unis, que pour la Chine, il y a très certainement une motivation politique derrière.
Je pourrais préciser aussi que les scientifiques profitent de cette compétition politique, puisque par exemple, la Chine est arrivée à l'unir sur la partie face cachée de la Lune, ce qui n'était pas arrivé à faire les autres. Et donc, les scientifiques s'en sont emparés et ont permis d'avoir des télescopes radio, de radioastronomie, la prolongation de certains radiotélescopes au sol, qui s'appellent LOFAR, Low Frequency Array. Et donc, cette fréquence est très intéressante parce que ça permet de savoir ce qui s'est passé au début de l'univers, la rayonisation. Et sur Terre, on a beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup d'interférences radio. Et la face cachée de la Lune, c'est le rêve pour les radioastronomes parce qu'il n'y a plus aucune interférence. Donc, les Hollandais ont mis sur le satellite des Chinois une expérience. Ils sont en train de déployer des antennes radio grâce à ça. Donc, on produit, enfin, on se met en passager clandestin pour profiter de ce prestige politique pour faire de la science ensuite.
Merci Madame Combe. Oui. Excusez-moi Monsieur Brac.
J'en profite pour dire qu'une station de phare est installée à Nancy, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Royan. J'invite tout le monde à venir visiter et Nancy et le petit musée à côté, donc pour voir une station de l'Ophar qui vient d'être présentée.
Et puis là, il y a l'Ophar aussi, mais il y a Nénuphar. Nénuphar qui est encore plus gros que l'Ophar, enfin que la station l'Ophar à Nancy, et qui peut marcher toute seule, en plus d'être en interférence avec l'Ophar.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoutes du ciel qui se développent et qui ont été développées pour détecter des communications extraterrestres. Et la question, c'est est-ce que ces écoutes vont continuer à se développer ou alors est-ce qu'on va uniquement se diriger vers des missions vraiment spatiales pour faire de la recherche extraterrestre, Madame Combe ?
Non, en fait, elles continuent. En fait, les émissions SETI, ça se fait en radioastronomie à basse fréquence, puisqu'il y a des signaux radio qui sont le plus faciles à détecter. Et ça va même être beaucoup plus facile, puisqu'il y a une mission qui s'appelle SKA, Square Kilometer Array, donc un immense réseau de télescopes qui va faire 1 km² de surface, donc 1 million de mètres carrés, qui est à la fois en Australie et en Afrique du Sud. Et ce réseau a un champ de vue énorme. Donc autrefois, par exemple avec SETI, il fallait pointer autour d'une étoile, on savait qu'il y avait des planètes autour de cette étoile, pour savoir s'il y avait des signaux radio qui seraient émis autour de cette étoile. Mais là, on va faire un champ du ciel énorme. Donc, on aura toutes les étoiles où il y aurait des planètes et éventuellement, et on pourra les détecter en temps réel, tout à la fois. Donc, on a passé à un niveau supérieur de recherche et automatiquement, on les aura, tout en observant nos sources radio extragalactiques qui nous servent pour les galaxies. Donc, on aura tout en même temps. On n'a même pas besoin de pointer vers une étoile donnée, on aura tout le ciel d'un coup. Et alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de puissance informatique pour résoudre ensuite tous ces signaux, mais on les aura automatiquement.
Monsieur Brac, vous pensez que c'est un enjeu, l'écoute spatiale, pour le futur ?
Absolument. Donc, personnellement, je suis favorable à l'écoute de signaux extraterrestres intelligents, parce que SETI a mauvaise presse, pour différentes raisons. Plusieurs personnes considèrent, même parmi les scientifiques, que l'humanité a atteint le summum de l'intelligence dans l'univers, donc ce qui est totalement ambitieux. Et parce que nous, astrobiologistes, nous sommes obsédés par la recherche de la première vie extraterrestre. À partir de deux, on pourra généraliser. Donc pour l'instant, nous sommes seuls, ça c'est clair. Nous n'avons aucune indication sur la présence d'une autre vie, autre que la vie terrestre. Donc, ceci peut soit représenter un caractère tout à fait exceptionnel de l'apparition de la vie sur Terre dont on ne pourra jamais prouver les mystères chimiques, ou alors nous pensons que la chimie, c'est un peu comme la cuisine, hein, la chimie est répétitive, donc si les conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre sont réunies ailleurs, les probabilités d'apparition de la vie ne sont pas nulles. Encore faut-il pouvoir le démontrer. Donc à partir de deux, ça nous confortera et ça nous donnera une analyse de simplicité, ce qui voudrait dire que les chimistes qui essaient de recréer ce type de vie primitive en tube à essai ont de réelles chances de réussir un jour à créer ce type de vie, ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire jusqu'à présent. Donc pour nous, on est vraiment à la recherche de ce fameux numéro 2. Je cite souvent une petite tribu amazonienne qui ont résolu les problèmes d'arithmétique, qui comptent 1, 2, après 2, c'est beaucoup. Nous, c'est 1, 2, à partir de 2, c'est partout. Bon, ça reste à démontrer.
Monsieur Brac, pour continuer, est-ce qu'actuellement, on cherche des lieux qui pourraient abriter la vie, ou alors est-ce qu'on cherche directement la vie ?
Bien, on commence par chercher. Bon, on essaie d'être organisé. Donc, on cherche d'abord des lieux qui présentent à la fois de l'eau à l'état liquide et la chimie du carbone. Alors, ce n'est pas par simple manque d'imagination, mais parce qu'on a réussi à démontrer en laboratoire que ce couple a des vertus particulières, que n'ont pas d'autres couples potentiels. Donc, c'est vraiment ce couple que l'on recherche, et à partir de cet endroit. Parce que si vous faites une demande à une agence spatiale en disant « je cherche un endroit où il y a de la vie », sans pouvoir définir le cadre, vous n'aurez aucune chance de succès. Donc, on va commencer par définir les endroits où il y a la possibilité d'avoir à la fois de l'eau dans le système solaire et sur les exoplanètes, actuellement, les astronomes nous ont donné 4362, et j'ai regardé ce matin, exoplanètes. Et parmi ces exoplanètes, la plupart sont trop grosses, elles sont gazeuses, mais il y en a une petite cinquantaine qui pourraient héberger de l'eau et de la liquide. Donc ce sont de bonnes cibles, et ce sont vers ces cibles qu'on va orienter, non pas les missions parce que c'est impossible en dehors du système solaire, mais on va orienter donc nos télescopes, nos recherches pour voir si dans l'atmosphère de ces exoplanètes, il y a, comme a dit Françoise, à la fois du CO2, de l'eau et de la vapeur d'eau et de l'oxygène. Il y a probablement sur ces planètes des organismes qui pratiquent la photosynthèse oxygénique. Donc c'est la raison pour laquelle nous commençons par regarder là où il y a de l'eau et la chimie du carbone, et ensuite on essaye de voir si sur ces endroits, il y a la possibilité de voir une biosignature ou un biomarqueur qui peut-être traduit la présence d'une vie extraterrestre.
Madame Combe ?
Oui, en fait, on a beaucoup progressé hein, en astrophysique. Regardez les exoplanètes, depuis plus de 20 ans qu'il y a eu la première exoplanètes détectées par Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont eu le prix Nobel d'ailleurs l'an dernier pour cela. Et donc, pour l'instant, c'est dans le voisinage du Soleil, donc c'est vraiment tout près, dans la banlieue du Soleil. On en a détecté 4000, en fait, il y a peut-être 5000 candidats, mais il va falloir les confirmer. Et on a pu, évidemment, on ne peut pas faire l'image, mais on a pu regarder, parfois, c'est par transit qu'on les détecte. C'est-à-dire qu'on détecte la planète qui passe devant son étoile et qui diminue un petit peu la luminosité de l'étoile. Donc, on a un petit transit. Et comme elle passe devant, on peut aussi regarder le spectre. Et on peut voir l'atmosphère de la planète qui s'évapore un petit peu et qui absorbe la lumière de l'étoile derrière. Et on voit un petit peu des raies. Et parfois, on a des signatures d'eau, etc. Et la plus proche, qui s'appelle Proxima du Centaure, elle a aussi une planète qui serait dans la zone habitable, c'est-à-dire la zone où l'eau est liquide, etc. Donc, il y a plein d'espoir parce qu'elle est très proche. Enfin, 4 années-lumière, c'est quand même assez loin, mais certains ont prévu des missions avec des voiles pilotées par des lasers qui pourraient aller à un cinquième de la vitesse de la lumière, et peut-être en 20 ans, arriver à Proxima du Centaure, avoir des petites webcams pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur cette planète. Donc il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits, et des planètes qui ont été caractérisées, et c'est très prometteur.
Aujourd'hui, une mission mettrait 20 000 ans pour arriver. Donc,
oui, à la vitesse, mais alors là, ce qu'a fait Avi Loeb à Harvard, oui. Il a proposé... Oui. Alors évidemment, c'est une mission qui a... même pas un kilogramme hein, de charge utile,
oui.
Et qui est poussée par des lasers. Alors, c'est un petit peu futuriste et science-fiction, hein, encore, je suis d'accord. Ouais.
on pourrait avoir, dans ces conditions, une photo en 2061.
Voilà, c'est ça.
Mais bon.
Il va falloir être patient, alors.
Oui.
Et Monsieur Brack, est-ce que l'on cherche des petits hommes verts ou alors on cherche plutôt des micro-organismes? En fait, qu'est-ce que l'on cherche concrètement?
Ben, nous sommes peu exigeants. Si on trouvait déjà des micro-organismes, on serait même fossilisés, on serait ravis, puisque ça prouverait que la vie a pu démarrer ailleurs. Alors, par exemple, sur Mars, il ne faudrait pas que ces micro-organismes ou que soient trop proches de la vie terrestre, parce que vous allez me dire, vous n'avez fait que démontrer la panspermie, donc un transfert d'une bactérie martienne qui a pu apparaître plus tôt sur la planète Mars, parce qu'elle a été habitable plus tôt que la Terre, puisque plus loin, plus petite, elle se refroidit plus vite. Elle a été la vie a pu apparaître sur Mars plutôt que sur la Terre. Nous avons plus de 70 météorites martiennes. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé de bactéries martiennes dans ces météorites, mais le voyage est possible puisque des essais ont été faits, des manips ont été faites qui montrent que le départ de Mars est possible. Que le transfert dans l'espace est possible, puisque des bactéries survivent au voyage, et même l'arrivée sur Terre est possible. Donc la panspermie est possible, rien ne prouve qu'elle a eu lieu, mais nous serions peut-être tous martiens, en fait. Hein. Donc ça poserait problème à tous ceux qui se méfient des étrangers, quand même, enfin, bon, pour l'instant. Donc c'est vrai que nous serions ravis, déjà, d'avoir un micro-fossile martien différent de la vie terrestre qui nous permettrait de dire que nous avons enfin notre numéro 2 et que la vie n'est pas restreinte à la planète Terre.
Je pense que dans le milieu interstellaire, on a aussi une grande évidence de molécules très complexes, molécules organiques, jusqu'à des acides aminés comme la glycine, qui est le plus simple acide aminé. Donc on a détecté dans les météorites de la glycine, aussi dans la comète Chury, qui a été observée récemment, on a la glycine. Et dans le milieu interstellaire, bon, nous l'avons aussi cherché beaucoup dans le nuage d'Orion. On a essayé de détecter 80 raies de la glycine en radioastronomie avec l'IRAM. Et on a détecté 40 de ces raies, mais les 40 autres n'étaient pas là. Donc en fait, c'est un peu une recherche très difficile, car il y a énormément de raies dans le spectre des nébuleuses. Et en général, il y a une confusion de toutes les molécules. En fait, on a à peu près une 120 molécules détectées dans ces nuages. Donc il est encore très difficile de mettre en évidence toutes les acides aminés qui seraient possibles.
Merci beaucoup Françoise Combe. Vous nous aviez parlé juste à l'instant justement d'un projet de voile solaire. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui la recherche de vie extraterrestre, on est avant tout bloqué par la technologie ou alors par le fait de trouver la vie en fait ?
En fait, c'est ça que je pourrais un petit peu répondre à ce paradoxe de Fermi. En fait, il paraît évident quand on se rend compte de l'énormité, de l'immensité de l'univers. Nous sommes des étoiles pratiquement ponctuelles et les plus proches sont à 4-5 années-lumière. C'est ça la distance entre les étoiles. On voit que dans la galaxie, il y a peut-être en effet il y a 300 milliards d'étoiles. Chaque étoile a des planètes. Donc il y a sans doute des millions et peut-être des milliards de planètes habitables. Mais elles sont tellement loin que même s'il y a des civilisations sur ces planètes, il sera extrêmement difficile d'avoir des signaux. Il faut 100 000 années-lumière pour faire à la vitesse de la lumière un signal d'un bout à l'autre de la galaxie. Donc 100 000 ans. Vous voyez qu'on a quand même des Néandertaliens à 50 000 ans. Donc 100 000 ans pour aller d'un point à l'autre galaxie, rien que par les signaux lumineux. Et c'est la seule chose qu'on essaie d'avoir de ces civilisations par SETI, c'est des signaux lumineux. Pour y aller, alors là, on a une vitesse qui n'est même pas 1% de la vitesse de la lumière. Donc c'est ça, en fait, le gros problème, c'est même les signaux qui vont à la vitesse de la lumière mettent un temps très, très grand par rapport à notre civilisation pour arriver.
Monsieur Brack.
On est un peu bloqué par la technologie parce qu'on n'arrive pas à... On n'a pas les moyens d'observer les atmosphères des exoplanètes. La bonne nouvelle, c'est que la chimie du carbone est universelle, puisque les radioastronomes ont détecté plus de 100 molécules à base de carbone, dont des molécules qui sur Terre ont permis le développement de la chimie du carbone et jusqu'à l'apparition de la vie. Malheureusement, pour l'instant, on a un peu du mal. On peut, comme m'a dit Françoise Combe, on peut regarder la planète quand on a la chance de la voir passer devant l'étoile. Donc, une petite fraction de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère et sert un peu de spectro. Hein. Donc, on a une source, un échantillon et l'observateur. Pour l'instant, on a détecté la vapeur d'eau dans certaines planètes, des métaux, mais enfin, pour l'instant, pas de molécules, pas d'oxygène et pas ce que l'on cherche. Donc, pour l'instant, on espère avoir un accord pour la mission Darwin, déjà mentionné, donc qui permettrait de voir La difficulté, c'est qu'il faut éteindre l'étoile va chauffer un petit peu la planète va rémettre de la chaleur qui va arriver jusqu'à nous. Donc ce rayonnement traverse l'atmosphère de la planète et va être modifié par les molécules qu'elle rencontre. Et donc... pour l'instant, la difficulté, c'est que la chaleur qui est rémise par la planète est très faible par rapport à l'étoile. On dit toujours que ça correspond à une bougie allumée à côté d'un phare allumé à Marseille, vu depuis Paris. Et donc, il faut réussir à éteindre le phare artificiellement. Mais ça, les astronomes savent le faire par interférométrie. Et pour ne regarder que la petite lumière qui traverse l'atmosphère de la planète. Alors, pour l'instant, la mission n'est pas signée. C'est un peu cher, mais quand on aura beaucoup de planètes habitables, je pense que là, ça sera un argument décisif pour avoir l'accord d'une mission de type Darwin.
Madame Combe ?
Oui, on a aussi des instruments au sol qui peuvent faire justement cette coronographie, c'est-à-dire éteindre l'étoile pour voir les planètes autour. Il y a SPHERE, qui est un instrument sur le VLT, le Very Large Telescope à l'ISO au Chili. C'est un télescope européen. Et avec SPHERE, par exemple, récemment, ils ont détecté la deuxième planète autour de Beta Pictoris, qui est une étoile proche. On avait déjà deux planètes par la vitesse radiale, hein, l'étoile recule, on a une vitesse radiale. Par contre, ils ont pu savoir où elle était, elle est très proche de l'étoile, et ils ont pu, grâce à Sphère, et aussi, il y a un deuxième instrument, Gravity, qui fait l'interférométrie en infrarouge, au VLT toujours, et cette technique a permis de séparer l'étoile de sa planète. Alors, elle a une planète qui s'appelle Beta Pictoris B, et maintenant, ils ont détecté Beta Pictoris C, qui est encore plus proche. Donc, ça commence. On arrive à pouvoir séparer la planète de son étoile pour les exoplanètes proches.
Je vous remercie. Nous allons tout de suite marquer une courte pause pour pouvoir écouter Vadim, qui va nous faire le point sur l'actualité scientifique.
Bonsoir Guillaume. Viser la Lune, ça ne me fait pas peur, mais aujourd'hui je vais viser entre Mars et Jupiter, où un astéroïde bien particulier a retenu l'attention de la NASA et des autres observateurs. Et pour une fois, ce n'est pas pour nous dire qu'il va frôler la Terre à des milliers de kilomètres. Non, cette fois, nous allons être riches. D'après les observations faites grâce au télescope spatial Hubble, l'astéroïde nommé Psyché 16 contiendrait d'énormes quantités de métaux précieux, tels que de l'or. Dans sa petite structure d'environ 245 km, un beau bébé. Considéré comme beaucoup, comme l'astéroïde le plus riche avec une valeur de plus de 100 trillions de dollars, sachant que l'économie mondiale pèse 144 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose. A contrario des astéroïdes composés de roches ou de glace, il est entièrement métallique, c'est-à-dire que sa surface est composée de nickel et de fer. Il constituerait donc un fait unique dans le système solaire, tant et si bien que de nombreuses théories fusent. Par exemple, celle d'un noyau d'une planète n'ayant jamais pu se former dans notre système solaire, errant dans notre système solaire. En tout cas, Psyché suscite d'énormes convoitises. La NASA et SpaceX prévoient même déjà des missions pour découvrir les secrets de ce trésor spatial. Et pendant ce temps-là, la météorite Covid-19 continue de pleuvoir sur le monde, plongeant même la France dans une seconde vague de confinement. Qui aura la peau de ce virus? Là où les nouvelles peuvent donner de l'espoir, c'est que aujourd'hui, l'université d'Oxford et le groupe AstraZeneca ont annoncé qu'ils allaient passer dans la phase finale de leur test clinique du probable futur vaccin anti-Covid. Celui-ci serait à la dernière étape avant la commercialisation. De nombreux tests ont été menés au cours de ces derniers mois et il est maintenant possible d'en avoir le résultat. Et lorsqu'on s'y penche, on constate une immunité cellulaire au Covid après une injection. On observe aussi des effets secondaires non toxiques cette fois, tels que des douleurs dans la zone d'injection ou des maux de tête, mais aussi peut-être des malaises. Bien qu'à un stade avancé, il y reste encore pas mal de chemin et pas mal de tests avant qu'on puisse généraliser au monde les résultats déjà observés. Certains spécialistes viseraient une fin des essais cliniques pour fin 2020. Comme quoi, qui sait, un petit vaccin se glissera peut-être sous le sapin. Et en attendant Noël, ça s'active en Chine, où le géant chinois Huawei essaierait tant bien que mal de se sortir des sanctions imposées par les États-Unis. Ils ont pour projet de pérenniser leurs approvisionnements de puces pour leur système télécom. La marque de produits high-tech prévoirait donc de construire une usine de production à Shanghai. Leur savoir-faire dans ce domaine de pointe leur permettra sans aucun doute d'atteindre cet objectif. C'était tout pour aujourd'hui, je passe le relais à la pause musicale.
Time.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Si vous nous rejoignez, vous êtes dans l'atome de savoir avec André Brac, astrobiologiste, et Françoise Combes, médaille d'or du CNRS 2020. Nous allons reprendre notre débat autour de la question suivante : sommes-nous seuls dans l'univers ? Madame Combes, maintenant on va s'intéresser un peu plus à la question de pourquoi cherche-t-on en fait ? Et finalement, est-ce que la recherche de vie extraterrestre n'est-elle pas un prétexte pour rechercher des ressources ?
Non, je ne crois pas du tout, hein, parce que les ressources, pour y aller, il va falloir énormément de ressources, déjà d'argent et de budget, et ce sera beaucoup plus cher que les ressources qu'on pourra récolter. Donc le but n'est pas du tout de faire revenir, par exemple, des minéraux. On a pensé qu'on allait chercher sur la Lune ou sur Mars des minéraux. Ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il est quand même extrêmement cher de faire des retours d'échantillons, par exemple. Là, on attend toujours avoir des retours d'échantillons de Mars, etc. Donc là, c'est pas le cas. Par contre, pourquoi fait-on des recherches ? C'est vraiment une curiosité naturelle de savoir si nous sommes seuls. En fait, d'après les probabilités que l'on a dans cette fameuse équation de Fermi, avec le nombre, l'équation de Drac, de Fermi, le paradoxe, on sait aujourd'hui qu'il y a, dans la Voie lactée, il y a sans doute peut-être des milliards de planètes habitables. Et il y a aussi, dans notre horizon observable, 300 milliards de galaxies. Donc quand on regarde, multiplie tous ces milliards, on voit bien que la probabilité d'avoir la vie ailleurs que sur Terre est certainement 1, et non pas 0. Mais bon, ça c'est une question probabilistique, et surtout on a le réflexe de ne pas faire comme un petit peu les astronomes avant Copernic, disant que nous sommes tout seuls au centre de l'univers. On a toujours été au centre de l'univers, la Terre d'abord était au centre du système solaire, on a vu que c'était pas le cas. Le Soleil, tout d'un coup, quand on a vu la Voie lactée, le Soleil était au centre de la Voie lactée, on a vu que c'était pas le cas, on était toujours au bord. Et puis la Voie lactée n'était pas seule, en 1920 on s'est aperçu qu'il y avait d'autres galaxies. Avant on croyait qu'il y avait... L'univers, c'était notre Voie lactée, c'est tout. On a vu qu'il y en avait d'autres. Et maintenant, on remonte le temps jusqu'au Big Bang, jusqu'à l'origine de l'univers, et on voit qu'il y a 300 milliards de galaxies. Donc, on voit bien qu'il y a une immensité énorme et que ce serait vraiment très prétentieux de penser que nous sommes la seule planète sur laquelle il y a la vie. Donc là, avec cette logique statistique, je suis pratiquement sûre qu'il y a la vie ailleurs, quelque part, maintenant sous quelle forme, et ça qu'on aimerait savoir. Donc c'est la curiosité qui nous fait aller là, et non pas la recherche de ressources.
André Brac ?
Oui, pareil. Hein. Même, je pense que c'est essentiellement le besoin de découvrir, le besoin de comprendre, en suivant ce que disait déjà Einstein, en disant qu'il est essentiel de ne jamais cesser de poser des questions. C'est grâce à ce questionnement, ce besoin impérieux de comprendre. Et permettez-moi de citer Saint-Exupéry dans Terre des Hommes qui écrit « D'une lave en fusion, d'une pâte d'étoile, les perméacs, nous sommes issus, et peu à peu nous nous sommes élevés jusqu'à écrire des cantates et à peser des voies lactées. » Écrire des cantates et à peser des voies lactées. C'est grâce à ce besoin impérieux de comprendre, de savoir que nous avons atteint, que l'humanité a atteint ce niveau de culture et cette possibilité de comprendre ce qui nous entoure depuis Galilée, etc. Donc c'est absolument ce besoin de comprendre qui est le moteur, et ce n'est pas du tout la recherche de nouveau. Bon, il y a évidemment des esprits un peu chagrins, un peu tordus, qui envisagent de racheter le Groenland, d'aller sur Mars pour aller sur la Lune pour extraire du tritium en particulier, mais ça c'est marginal par rapport à l'ensemble des agences spatiales qui définissent les missions.
Donc, quand on vous écoute, on comprend que la recherche de vie extraterrestre n'est pas un prétexte pour aller rechercher des ressources. Par contre, Monsieur Brac, est-ce que la découverte de vie extraterrestre pourrait être une aide au manque de ressources sur Terre ?
Je ne vois pas trop comment, parce que ça pourrait être une leçon de sagesse à donner à l'ensemble de l'humanité pour mieux gérer la planète, hein, pour etc. Donc cela représenterait certainement un choc psychologique, puisque le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, ça voudrait dire que nous ne sommes pas le nombril de l'univers et que donc il peut y avoir de la vie ailleurs. Ça serait une leçon d'humilité. Quant à découvrir la vie sur Mars, ça permettrait aussi de protéger Mars, puisqu'il y a une vie sur Mars, il n'est pas question d'aller habiter sur Mars. Et puis, de toute façon, le terraforming, qui est donc la terraformation de Mars pour rendre Mars habitable comme station de refuge en cas de détérioration totale de la Terre est une illusion et c'est quelque chose d'absolument aberrant. Donc le message serait quand même qu'il faut protéger la Terre mieux qu'elle ne fait l'humanité actuellement.
Françoise Combes.
Oui, alors pour répondre à la question, je suis tout à fait d'accord avec André Braque. Évidemment, il faut absolument préserver la Terre et nous sommes, on possède quelque chose d'extrêmement précieux qu'il faut protéger. Mais je pense que dans votre question, il y avait aussi l'idée que peut-être la Terre, dans un certain temps, alors évidemment 2 milliards d'années, elle sera complètement invivable. Et il est vrai que notre Soleil n'est pas éternel, c'est-à-dire que le Soleil va devenir une naine blanche, elle va d'abord exploser en devenant une géante rouge, et donc tout jusqu'à Mars et la Terre va être volatilisé et la Terre n'existera plus. Donc peut-être vous pensez à ce qui va subsister de la vie sur Terre, et si on ne pourrait pas partir sur une autre planète auparavant. Donc là, en effet, il y a certains astronomes qui ont écrit des publications là-dessus, en disant qu'au bout d'un certain temps, évidemment, notre civilisation n'est pas encore assez savante pour avoir ce genre de voyage, mais on pourrait éventuellement envisager un voyage, si on trouvait une planète tout à fait habitable, avoir des vaisseaux spatiaux où les gens vivraient, parce qu'en fait, il faudrait plus que 100 ans peut-être pour aller sur l'autre planète. Donc, des vaisseaux spatiaux où les gens pourraient vivre et ensemencer d'autres planètes afin de préserver une civilisation qui, de toute façon, la Terre étant volatilisée, n'existerait plus.
André Braque, qu'est-ce que vous pensez aussi que finalement l'avenir de l'homme n'est pas forcément sur Terre ?
L'avenir de l'homme est sur Terre. Bon, dans 3 milliards d'années, j'ai bien peur que l'humanité aura disparu. Hein. Si on regarde la version pessimiste, le verre à moitié plein, la durée moyenne d'une espèce de mammifère est de 7 millions d'années. Notre plus ancien ancêtre, c'est Toumaï, qui a été découvert en Afrique de l'Ouest, est vieux de 7 millions d'années. Donc si nous étions une espèce animale ordinaire, mammifère, nous devrions commencer à disparaître. Mais nous sommes intelligents, donc on va durer plus longtemps que ça, ça c'est clair. Mais encore, sommes-nous vraiment intelligents ? Donc je pense que le problème, dans 2 milliards d'années, le problème ne se posera pas pour l'humanité. Je pense qu'elle aura disparu.
Et Françoise Combes, est-ce qu'on a intérêt à trouver la vie sur Terre, a-t-on intérêt à trouver la vie extraterrestre et à la rencontrer ?
Moi, je pense que oui, si c'était possible. Enfin, bon, il y a toujours le problème des signaux qui sont très très compliqués à chercher, à trouver, hein, puisque nous sommes des petites têtes d'épingle dans une immensité. Mais si jamais on avait une planète extrasolaire proche du Soleil à laquelle nous envoyons des signaux, parce qu'on ne cherche pas qu'en radio aussi, on cherche aussi en optique. Il y a des projets de télescopes optiques qui pourraient détecter des lasers à impulsion. Parce qu'en fait, un laser n'est pas assez puissant pour émettre en continu, mais on pense que la civilisation extraterrestre pourrait envoyer des impulsions, et à ce moment-là, il suffirait de regarder le ciel, on verrait ces impulsions. Comme en 1964, Jocelyn Bell a détecté les pulsars. On a tout d'un coup cru que c'était des extraterrestres, en fait, c'était des pulsars. Donc, l'impulsion très, très brillante permet de détecter des signaux qui sortent de l'ordinaire. Et donc, si jamais on a détecté ce genre de signal, après tout, ce n'est pas complètement impossible. Là, ce serait très intéressant, car on pourrait imaginer que, quand même, à quelques années près, on puisse envoyer des signaux sur cette planète. Elle serait à quelques années-lumière, donc on aurait la réponse dans 10 ans. Mais enfin, bon, c'est quand même à des échelles humaines, 10 ans. Donc ce serait intéressant, quand même.
Monsieur Braque,
vous pensez qu'on a intérêt à trouver la vie extraterrestre et à la rencontrer ?
Nous, comme déjà dit, le rêve de tout astrobiologiste, c'est de trouver le fameux numéro 2. Donc il nous faut absolument une preuve de relative simplicité. Pour l'instant, on ne peut pas exclure un acte extrêmement complexe, l'origine de la vie sur Terre. Et on risque, si c'est le cas, on restera sur une frustration complète, puisqu'on ne pourra jamais espérer reproduire ce type de chimie au tube à essai. Donc pour nous, la recherche du fameux numéro 2, donc le début du pluriel, est tout à fait impératif et c'est ce qui motive maintenant le fait que beaucoup d'astrobiologistes s'intéressent et participent activement à la recherche de vie extraterrestre dans les missions, les différentes missions, que ce soit les missions américaines ou les missions européennes. Donc oui, il faut absolument continuer. Pour nous, la découverte de la première vie extraterrestre est un acte fondateur de l'astrobiologie, de la finalité ultime, c'est de trouver la première vie extraterrestre. Donc la réponse est oui, il faut absolument continuer la recherche de cette vie extraterrestre, ne serait-ce que pour démontrer le caractère pluriel de la vie, et non pas simplement un acte isolé dans l'immense univers.
Depuis le début de notre débat, on parle de distance assez phénoménale. Et en fait, est-ce qu'il faut forcément aller loin pour découvrir la vie, Monsieur Brack ?
Non, mais il suffit d'aller sur Mars, hein, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis un certain temps. C'est notre plus proche voisin où la vie a pu apparaître. Donc c'est vraiment, on a la chance d'avoir Mars, qui avait d'énormes océans à la surface et jusqu'à il y a 3,8 milliards d'années. Donc l'eau a disparu, elle s'est réfugiée dans le sol sous forme de pergélisol, de permafrost. Et sous le permafrost, il y a probablement encore des endroits où il y a de l'eau à l'état liquide, ou peut-être des bactéries martiennes qui seraient apparues, qui sont réfugiées dans le sous-sol profond, sous le pergélisol, subsister. Donc, mais ça, c'est trop difficile dans l'état actuel des recherches. Donc, on cherche actuellement, toutes les missions cherchent à la surface de Mars des microfossiles de ces micro-organismes qui seraient nés sur Mars un petit peu avant la Terre, peut-être même il y a environ 4 milliards d'années.
Même combe ?
Peut-être.
Oui, je pense qu'il faut continuer de chercher dans le système solaire, bien sûr. Mais bon, c'est sûr que pour l'instant, on n'en a pas vraiment découvert. Donc, il faut s'accrocher. Enfin, sur Mars, il y a eu beaucoup de robots qui ont essayé d'avoir des petits échantillons, qui ont transmis à la Terre par les ondes radio. Et pour l'instant, la recherche a été plutôt négative. Donc, c'est pour ça que les gens aussi essaient. Il faut faire les deux, le système solaire et puis d'autres systèmes extraplanétaires sont aussi intéressants.
La recherche de vie extraterrestre, finalement, c'est quelque chose qui est très concret, puisqu'on recherche d'autres formes de vie, mais qui est aussi finalement très théorique, vu qu'on ne peut pas forcément, c'est comme en chimie, on ne peut pas faire le mélange sur place. On ne peut pas aller voir sur place si ça existe réellement. Je suppose, Mme Combe, que les recherches théoriques dans le domaine du spatial et dans la recherche justement de vie extraterrestre qu'on ne peut pas aller vérifier immédiatement sont très très importantes.
Oui, en fait, quand on peut vérifier, l'astronomie c'est basé là-dessus. Hein. C'est les signaux qui nous proviennent de l'univers, donc surtout la lumière, dans toutes les longueurs d'onde, de la radio jusqu'à rayon gamma. Et puis, on a des signaux différents maintenant, les ondes gravitationnelles, on a les neutrinos, etc. C'est avec tout cela qu'on permet quand même de voir ce qui se passe, parce qu'on a quand même des signaux qui nous proviennent. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que la recherche SETI ou la recherche en optique ou en infrarouge aussi, de ces fameux lasers qui seraient émis, sont recherchés. C'est-à-dire que là, on aura quand même une évidence qu'il y a une vie extraterrestre si on a des signaux intelligents qui arrivent. Donc, c'est une autre façon, c'est l'autre bout de l'échelle. Et puis, la bout de recherche de fossiles dans le système solaire, là, on va vraiment chercher des échantillons et les faire revenir. Donc, il y a ces deux aspects qui sont vraiment les deux bouts extrêmes de la vie.
Monsieur Brack ?
Oui, les modèles théoriques, on essaie de modéliser la chimie sur ordinateur et puis de la transposer, ce qu'on appelle la paillasse. Malheureusement, pour l'instant, les ordinateurs n'ont pas réussi à imaginer, on manque d'imagination, même sur ordinateur, puisqu'on n'a pas réussi à imaginer. On a de nouvelles pistes maintenant qui visent à mieux représenter ce que l'on sait de l'environnement de la Terre primitive. On est toujours, parce que connaissant, mieux connaître l'origine de la vie sur Terre permettra de mieux définir les endroits où la vie peut apparaître ailleurs. Donc, on travaille beaucoup sur modélisation d'ordinateurs avec l'espoir qu'un jour ces modèles pourraient être transposés à la paillasse, puisque nous, chimistes, on a besoin de faire des expériences et d'avoir des choses en main pour pouvoir affirmer que cette chimie simple est possible ailleurs.
Et est-ce qu'aujourd'hui, les modèles théoriques sont manquants? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec la théorie qu'on a actuellement, on pourrait établir si oui ou non il y a une vie, il y a la vie sur une planète ou ailleurs, Madame Combe?
Ça, c'est une question très difficile. On a vu que sur Terre, c'est tout à fait possible. Et il y a des expériences quand même qui ont été faites pendant très longtemps par Urey, etc., qui montraient qu'avec un petit peu de rayons ultraviolets et puis des molécules élémentaires organiques, on arrivait à faire des acides aminés, des protéines, etc. Donc, je pense que le principe est là. On n'a peut-être pas complètement suivi toutes les étapes, mais le principe est là. Je pense que là, c'est pas là que se produit le blocage, en quelque sorte, je pense. On s'imagine bien comment ça a pu venir, puisque dans tout le milieu interstellaire, et même jusqu'à quand on remonte le temps et toutes les galaxies, il y a toujours la même chimie du carbone, etc. On a pu regarder toutes les mêmes molécules. On les regarde il y a 13,8 milliards d'années, on les a. Donc, c'est pas du tout une chimie différente. Le silicium, il n'y en a pas. Toutes les molécules organiques, on les a jusqu'au début de l'univers, à 13 milliards d'années. Donc, c'est vraiment la même chimie qui va se produire dans toutes les galaxies. Ça, on a une évidence. Maintenant, la dernière étape, comment se produit cette vie? Non, ça, c'est encore un mystère.
Donc, en fait, finalement, on a toutes les clés en main pour pouvoir trouver cette vie, mais il nous manque encore la confirmation d'aller sur place. Donc, on retourne finalement sur le blocage technologique, en fait, Madame Combe.
Oui, technologique, moi, je dirais. Et puis, là, ce sera même intrinsèquement. On n'arrivera pas, hein, vu les distances. Hein, comme dans la Voie lactée, il y a 100 000 années-lumière. Vu ces distances, on n'ira jamais à aller sur place. Donc la seule source de renseignement, ce serait d'avoir un signal d'une civilisation.
Monsieur Bragg, vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Oui, je suis d'accord. La difficulté, pour la chimie de l'origine de la vie, on a le décor, on a les personnages, on n'a pas le scénario. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à recréer en tube à essai des systèmes simples capables d'autoreproduction et d'évolution. Donc, pour l'instant, on a à peu près des produits de base, des produits de départ. On n'a pas réussi à recréer en tube à essai un système qui mimerait l'apparition de la vie sur Terre. Alors, on sait que la chimie du carbone est universelle. On sait qu'il y a en dehors de la Terre des endroits où il y a de l'eau où il y a encore de l'eau à l'état liquide. Donc, mais la Terre est quand même bénéficie de certaines circonstances. La Terre a un gros satellite, la Lune, qui provoque des marées, donc avec des flux et des reflux. La Terre a un champ magnétique permanent, ce que n'a pas Mars, ce que n'a pas eu Mars. Et donc, par contre, la Terre aussi une tectonique des plaques. Qui donne naissance à des fumeurs noires au fond des océans, donc qui ont pu participer à l'origine de la vie, la chimie de l'origine de la vie. Donc ces trois facteurs n'existent pas sur Mars. Donc si sur Mars on trouve de la vie, bien que Mars n'ait pas ces trois caractéristiques, c'est très encourageant. Ça veut dire que s'il y a de l'eau et la chimie du carbone, les chances sont réelles pour que la vie apparaisse, puisque, comme déjà dit, la chimie, c'est de la cuisine, une recette de cuisine. Si vous répétez la recette de cuisine en suivant rigoureusement le mode opératoire, vous avez de fortes chances de réussir, mais à condition que la recette soit relativement simple. Si la recette est très compliquée, s'il faut ajouter 1000 épices dans un ordre bien déterminé, les chances de succès sont extrêmement faibles. Donc, tout repose sur la complexité de la chimie et de l'origine de la vie, et donc tout repose sur la démonstration d'un numéro 2, et qui voudrait dire que finalement, si c'est répétitif, ça doit être relativement simple. Voilà.
Je vous remercie. J'ai une dernière question. Dans l'introduction, Gaspard nous a parlé des sons qui étaient présents sur le Voyager Golden Record. Si vous aviez pu choisir une musique à mettre sur ce disque, laquelle vous choisiriez et pourquoi, Madame Combe?
Oula, ça c'est une question très compliquée. Et c'est fatalement, le choix sera plutôt dans l'esprit et la culture du moment. Donc pourquoi pas du rock'n'roll, on va dire. Moi je crois que c'est en jouer. Je pense que ce serait ça qu'il faudrait pour essayer de réveiller les extraterrestres.
Et vous, Monsieur Brack?
Moi j'aurais suivi Saint-Exupéry, écrire des cantates. J'aurais mis un morceau de Bach qui à mes yeux est le plus grand compositeur de tous les temps, mais c'est très personnel.
Ben, on pourra mettre les deux, sinon.
Voilà.
Comme il y a du Beethoven sur le Golden Record, si je ne me trompe pas, et du coup le rôle de Chuck Berry, donc les deux sont bien présents. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Tout de suite, nous allons écouter la chronique de vulgarisation de Jade, qui va nous parler de l'infiniment petit.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
Et oui Guillaume, on va aller dans un tout autre registre et quitter l'infiniment grand pour zoomer sur l'infiniment petit. Et quand je parle d'infiniment petit, je parle d'infiniment petit. Je ne parle pas de fourmis, d'acariens ou même de cellules, mais bien d'un tout autre domaine qu'il peut être difficile d'envisager. La science qui étudie l'infiniment petit est la physique quantique. Je sais, moi aussi, rien qu'à la mention de cette science, j'ai déjà mal à la tête. La physique quantique étudie l'infiniment petit, et autrement dit, tout ce qui se passe à l'échelle de l'atome. Donc bien plus petit que notre fourmi ou notre cellule. Et comme pour moi, et pour beaucoup d'autres, les cours de physique chimie avec M. Roger en 4e B sont très loin, il me semble important de rappeler ce qu'est un atome. L'atome est la plus petite partie d'un corps simple, pouvant se combiner avec un autre. L'atome est composé d'un noyau, lui-même composé de particules subatomiques, c'est-à-dire encore plus petites qu'un atome. Les protons et les neutrons. Autour de l'atome gravitent des électrons, dans ce qu'on appelle le nuage électronique, qui est en fait du vide autour du noyau. Le proton a une charge positive, tandis que l'électron a une charge négative. Et le neutron, je vous laisse deviner, il a une charge neutre. L'équilibre entre les charges positives qui se repoussent et les charges négatives qui s'attirent permet à l'atome de ne pas exploser. En effet, c'est cet équilibre qui permet aux électrons de tourner autour de l'atome. En général, la taille d'un atome est d'un dixième de millionième de millimètre. Pourtant, l'atome et ses composants ne sont pas les plus petites particules existantes. On peut par exemple parler des quarks, cette particule qui composerait les protons et les neutrons. Je rappelle que les protons et les neutrons, c'est ce qui compose le noyau de l'atome. Donc là, on parle de particules qui sont encore plus petites que le noyau de l'atome. Mais je vais laisser soin à Vadim de vous en parler dans une prochaine chronique de vulgarisation. Bien entendu, à une échelle aussi petite, les lois que nous connaissons de la physique ne s'appliquent pas de la même manière, voire pas du tout. Il nous faut utiliser les lois de la mécanique quantique. Et c'est là la plus grande difficulté de la physique quantique. Il faut réussir à se représenter des phénomènes qui n'existent pas à notre échelle. Ce paradoxe est représenté par le chat de Schrödinger, qui, s'il était un objet quantique, pourrait être à la fois mort et vivant. Le chat peut être dans deux états à la fois. Et c'est ce qui arrive à l'échelle de l'infiniment petit. Les particules peuvent être à la fois des particules solides et des ondes. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule. En outre, les particules peuvent se trouver à plusieurs endroits à la fois. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Et il existe encore d'autres règles comme celle-ci, difficiles à concevoir. Si l'on prend l'exemple des photons, qui composent la lumière, on pourrait les comparer à des petites billes d'énergie qui peuvent se comporter comme des particules ou des ondes. Le photon va changer de nature en fonction du contexte et du milieu dans lequel il va se trouver. Aujourd'hui, la physique quantique a une grande implication dans la vie de tous les jours et l'on la retrouve dans de nombreux objets et de nombreuses technologies, comme le fameux ordinateur quantique. Mais encore une fois, ce sera l'objet d'une prochaine chronique de vulgarisation. À quel moment se situe la frontière entre l'infiniment petit et le domaine macroscopique ? Le nôtre, quoi. J'aurais certainement dû commencer par là, c'est vrai. Pour nous, dans notre monde macroscopique, l'unité de mesure adaptée est le mètre. Mais cette unité de mesure ne correspondra pas du tout à l'échelle de l'atome. C'est pourquoi on en a trouvé une autre, la longueur Planck, du nom du même physicien Max Planck. Cette longueur nous indiquerait la frontière entre le domaine microscopique et celui macroscopique. Elle équivaut à 10 puissance moins 13 cm. Bien sûr, nous ne pouvons pas expliquer et détailler tout l'infiniment petit en si peu de temps, alors je vous invite vraiment à approfondir par vous-même. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'Institut Pandore, qui vulgarise ces concepts parfois très complexes.
Merci Jade et merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'Atome de Savoir revient le mois prochain à 20h sur Radio Campus Paris. En attendant, vous pouvez nous réécouter en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify et nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Twitter et un compte Instagram tenu par notre attachée de production, Johanna Blin. La réalisation ce soir, c'était Swan Blanchet. À dans un mois et en attendant, restez curieux et portez-vous bien.